BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonjour et bienvenue dans Tech & Co Business sur BFM Business. On va beaucoup parler d'intelligence artificielle. On va démarrer tout de suite avec le vice-président recherche et innovation de l'Institut Polytechnique qui rassemble l'école Polytechnique, bien entendu, Télécom Paris. Enfin voilà, beaucoup d'écoles, 45 labos d'innovation. Et justement, c'est essayer de comprendre comment on peut rapprocher ces chercheurs, ces étudiants de l'entrepreneuriat, la recherche fondamentale, de la recherche à impact. On verra tout ça avec Jamal Atif dans un instant. On enchaînera avec Ludovic Granger. Il part aux États-Unis, mais juste avant, il est venu nous voir. Ludovic Granger, c'est LeadBay. Ils viennent de lever plus de 4 millions de dollars. Le but, c'est aller chercher les signes faibles pour trouver vos bons, faire de la prospection commerciale, mais pas sur les réseaux LinkedIn, pas sur les réseaux sociaux. Aller chercher ailleurs. Vous allez voir, la techno est assez passionnante. Et puis, on reviendra avec Workday aussi sur l'événement Elevate qui s'est déroulé cette semaine autour de la RH et des finances. Deuxième partie de l'émission, un débrief qui vaut son pesant d'or avec nos débriefeurs sur l'IA, avec notamment cette actualité, le kill switch de Anthropic de l'administration américaine. Et puis on reviendra évidemment sur Cursor SpaceX et sur Ivatech. Allez, restez avec nous, on est ensemble pendant une heure sur BFM Business.
Tech & Co Business, l'invité.
Allez, on démarre avec notre invité, Jamal Atif. Bonjour Jamal.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous. Vice-président recherche et innovation de l'Institut Polytechnique de Paris. On va revenir dans un instant. C'est plusieurs écoles. Il y a l'école Polytechnique, l'ENSTA, l'école nationale Ponts et Chaussées, l'ENSAE Paris, les Télécom Paris, Télécom Sud Paris. Ça fait 45 laboratoires de recherche. On va parler de toute la mission de l'Institut Polytechnique. Puis vous êtes aussi prof de maths à l'école Polytechnique. C'était Vivatech il y a quelques jours. Il y a eu plein de startups présentées. Ma première question, c'était quel est l'objectif comme ça d'un Institut Polytechnique qui regroupe l'ensemble de ces écoles prestigieuses, on est vraiment dans l'élite scientifique française. C'est quoi la raison d'être, est-ce que c'est d'être plus visible à l'international?
Oui, alors effectivement, il faut être plus visible à l'international. Je l'avais dit.
Mais bien que les gens connaissent Polytechnique.
Voilà, exactement.
Mais voilà.
Mais dans la projection internationale, il fallait atteindre une masse critique, et c'est un peu l'objectif de l'Institut. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est un objectif qui est un objectif de chemin. Oui. Le but, c'est d'avoir de l'impact. C'est juste avoir de l'impact. Et quand on va parler de Vivatech, nous, notre ambition, c'est à la fois de produire de la science du plus haut niveau. Donc, pour ce faire, il faut quand même s'inscrire, on va dire, dans l'arène internationale des meilleures institutions mondiales. Et c'est l'objectif de l'Institut Polytechnique de Paris. Mais on est quand même porteur de cette ambition pour être une sorte d'asset de la nation, pour produire de la connaissance qui se transforme en produit, en objet de souveraineté, en entreprise, en start-up, mais aussi avoir de l'impact, économique. Alors, c'est dans notre ADN.
Alors, 27 start-up présentes à Vivatech 2026. Il y avait 5 incubateurs mobilisés. Je crois que globalement, l'Institut Polytechnique, par an, c'est plus de 120 start-up.
Tout à fait.
Et alors, je regardais certaines qui étaient sorties dans le dossier de presse. Tinental, qui est une solution d'optimisation énergétique des systèmes industriels fondés sur l'IA et l'IoT. Venturix Éolien sur l'offshore aéroporté. Vert, c'est un dispositif portable de diagnostic respiratoire. T-Live, diagnostic cellulaire. On est multidomaine là.
Tout à fait. On est présent sur l'ensemble des domaines, et ceux qui étaient d'ailleurs mis en lumière au sein du BATEC à la fois. On est présent évidemment dans le domaine large des souverainetés, donc la cybersécurité, l'IA, le quantique et autres, mais aussi dans tout ce qui est health tech. Donc vous en avez cité quelques-unes, mais aussi green tech. Donc on a un ensemble de startups qui ont été exposées à la fois sur des questions, on va dire, d'énergie solaire, mais qui atteint des niveaux au-delà de 200 Celsius jusqu'à 1000 Celsius. D'accord. Pour des applications industrielles. On a aussi du diagnostic précoce par des outils d'IA. On est présent sur.
Ouais, le but, c'est vraiment sur l'ensemble tout le spectre.
Sur tout le spectre,
scientifique et industriel. Le but, c'est avoir ce continuum entre la recherche, l'innovation, l'entrepreneuriat, parce que c'est ça qui, parfois, c'est ce qui nous manque. On a des chercheurs qui restent chercheurs.
Très bons chercheurs.
On a des entrepreneurs qui parfois manquent de la petite étincelle qui va faire d'eux, la petite étincelle scientifique qui va faire d'eux qu'une entreprise va devenir un Mistral, va devenir une super pépite. Et là, le but de cet Institut Polytechnique, justement, c'est de dire, regardez, on a nos 45 laboratoires de recherche, on a, j'ai pas mis les chiffres, mais 10 licornes, un quart des scale-up du Net 40 fondé ont été dirigés par des gens qui étaient incubés au sein d'IP Paris. Le but, c'est de, on réussira mieux grouper.
Tout à fait. Alors, nous, on commence à construire ce moto. Nous, on forme à la fois un Michel Dévoré, qui est un alumnus de Télécom Paris, à la fois avoir un prix Nobel, mais aussi avoir Arthur Mensch. Mm-hmm. C'est tout ce spectre, ça se résume en cette phrase, de Michel Dévoré à Arthur Mensch. Et nous, on voit pas de tension entre recherche fondamentale, une recherche qui est guidée par la curiosité, et de la recherche à impact, de la recherche appliquée, mais de la recherche qui se fait aussi avec le monde de l'entreprise. Mm-hmm. Oui. Et c'est le propre des instituts, on va dire, qui nous ressemblent à l'échelle mondiale. C'est à la fois avoir une recherche fondamentale du meilleur niveau, mais aussi être engagé dans l'innovation, mais aussi dans la création de la valeur. Et bah, mon poste, il, quelque part, il résume un petit peu notre ambition. Moi, je suis vice-président recherche et innovation. Donc, oui, on a une mission de connecter la recherche fondamentale à l'innovation de rupture. Et on travaille sur cette articulation. On met un ensemble de mécanismes pour transformer la recherche fondamentale. Peut-être demain, peut-être dans 20 ans, 30 ans. Parce qu'on a un ensemble d'innovations qui transforment notre quotidien, mais positivement.
Parce que c'est souvent ça, en France, on voit qu'on a d'excellents chercheurs, mais souvent on a un peu moins de champions technologiques. Quand j'entends champions, c'est vraiment ceux qui sont passés. On a beaucoup de start-up, hein, hyper bon, et en cybersécurité, et dans la deep tech, enfin, dans plein de domaines. Mais on a ce souci d'en faire des vrais champions technologiques. Qu'est-ce qui manque là, selon vous, Jamal ?
Alors, je pense qu'il faut agir sur l'ensemble du spectre. D'abord, moi, comme j'ai dit, nous, notre ambition, c'est de ne pas faire de la recherche, enfin, de l'innovation incrémentale. Évidemment, il en faut, il faut répondre à des besoins de marché. On y contribue, mais il nous faut aussi des instituts qui portent l'innovation de rupture comme étant un objet tout aussi intéressant que la recherche fondamentale. Nous, notre ambition, c'est de transformer le monde de demain. Et donc, on travaille sur cette articulation. Maintenant, qu'est-ce qui manque ? Il manque un changement de mentalité, faire en sorte que nos chercheurs les plus brillants s'intéressent aussi à l'innovation, et ce n'est pas une tâche facile. Après, bah, quand on accompagne tout le mécanisme de la prématuration, la maturation, créer des startups, il nous faut quand même collectivement, là c'est en dehors de l'Institut Polytechnique de Paris, à l'échelle française, à l'échelle européenne, travailler sur le scale-up, travailler sur une profondeur de marché, travailler sur le risque, sur le fait qu'il y ait des capitaux qui viennent, sur des idées qui, à prime abord, peuvent paraître pas très immédiates.
Un peu éloignées du marché, voilà.
Il faut travailler sur le marché, d'accord, il faut apporter des solutions qui permettent d'améliorer le quotidien, qui permettent d'avoir davantage de prospérité économique, c'est fondamental et c'est l'une de nos missions. Quelque part, on y contribue. Vous avez rappelé les chiffres. L'entrepreneuriat étudiant chez nous, il est, on va dire, il est à un très haut niveau. Il faut continuer, évidemment. Mais ce qui nous manque en France, c'est voilà, rapprocher la recherche fondamentale avec ce qu'on appelle l'innovation de rupture, la deep tech. Et il faut des capitaux, il faut de l'accompagnement, il faut de la consistance dans les politiques publiques françaises et européennes.
Et puis surtout, il faut ce lien, parce que souvent, on a des chercheurs qui ne sont pas dans la même temporalité ou qui sont dans leur couloir de nage. Et l'entreprise, elle est dans le couloir de nage à côté, mais chacun ne voit pas forcément l'autre, alors que voilà, il faut ce lien pour les mettre tous les deux. Une question, justement, Vivatech, ça joue ce rôle de catalyseur aussi, parce que je vois que pendant Vivatech, vous avez annoncé signature avec le groupe Danone. Oui. Signature, bah même, on sort un peu du territoire avec l'École Technologie Supérieure de Québec, avec Amilabs, hein, la start-up de Yann Lequin. Donc c'est ça le but aussi, c'est d'aller chercher les partenaires, de dire tiens, comment on peut accélérer à travers alors des capitaux certes, mais aussi des partenariats tels que ceux que je viens de
citer. Ces trois exemples illustrent un peu ce que l'on fait. On monte des partenariats avec des entreprises mondiales assez établies, donc là il y a des formes de partenariats particulières. Là on a un programme connexion à IP Paris, donc le petit nom de l'Institut Polytechnique de Paris, avec l'ensemble des grands groupes. Alors, ça peut être des relations, on va dire, de gré à gré, des labcom, des tessifres. Voilà, donc le panel de collaboration existe. Bah, l'idée, c'est d'avoir une relation davantage articulée. Donc, l'Institut Polytechnique de Paris, on est très proche du monde de l'entreprise. Donc, à cet égard, on est un peu particulier.
Oui, avec
en France,
un réseau d'anciens élèves assez important.
Voilà, et donc, et c'est un peu dans notre feuille de route, et au-delà de ça, c'est un peu dans notre ADN. Maintenant, il faut travailler avec les meilleurs et ceux qui feront l'IA de demain, ceux qui feront les technologies de demain. Bah, le projet de Yann Lequin, que l'on connaît aussi par ailleurs, bah, il est porteur de cette ambition. C'est un peu rebattre les cartes, on y a. Et c'est le propre de la science, le propre de ce qui se fait dans nos laboratoires en quantique, en IA, mais en cybersécurité, c'est de façonner les objets de demain, c'est façonner l'IA de demain. C'est, voilà. Et donc, le partenariat avec Amilabs s'inscrit dans cette dimension.
Montre exactement ça. On parle aussi, on a beaucoup parlé de souveraineté pendant Vivatech, souveraineté numérique, voilà, avec tout ce que ça rapporte. Mais il y a aussi, il faut avoir cette souveraineté scientifique. Bah moi, alors on a de la chance avec l'Institut Polytechnique et tous les établissements que vous chapeautez, on a justement cette force, mais c'est important de la maintenir.
Il faut rappeler juste une petite chose. Nous sommes un institut sous la tutelle de deux ministères, le ministère des Armées et le ministère des Finances, de l'Économie, donc Bercy pour faire court. Donc on est au cœur des enjeux à la fois de souveraineté, des souverainetés et de défense. Mais cette tutelle ne nous empêche pas de dire que la première des souverainetés, c'est la maîtrise de la connaissance. Mmh. On va parler un peu d'IA. Bah, si on ne maîtrise pas la science de l'IA, bah, on perd en souveraineté. On le voit avec ce qui s'est passé il y a moins d'une semaine, par exemple. Donc la première des souverainetés, c'est de maîtriser la connaissance en amont. Et évidemment, au-delà de ça, bah, il va falloir accompagner. La souveraineté, c'est une chaîne de valeur. C'est de l'autonomie stratégique. On peut penser ça en articulant nos partenariats, en articulant la chaîne de valeur, où est-ce qu'on va sourcer l'idée, où est-ce qu'on va sourcer le matériau. Et donc ça, on l'aborde de façon assez générale et on a la particularité d'avoir un ensemble de centres qui traitent ces sujets-là. On a un centre interdisciplinaire qui est dédié aux études de défense et de sécurité. On travaille avec l'AID à la fois pour sourcer les idées de recherche fondamentale, mais aussi des choses qui peuvent être davantage appliquées, davantage actionnables quand il s'agit des questions un peu critiques.
Et bien, vous savez ce qu'on va faire ? On va prendre date pour une prochaine visite avec justement des startups qui en a et qui nous montrent concrètement tout ce qui est fait avec l'Institut Polytechnique. Merci Jamal Latif, vice-président recherche et innovation de l'Institut Polytechnique de Paris. Et donc, pour faire ce lien entre recherche fondamentale, recherche à impact, les entreprises et puis bien entendu les capitaux. Merci infiniment d'être venu nous voir sur ce plateau. Et on prend date, promis, vous revenez avec deux, trois startups.
Promis.
On fera tout un débat autour de ça. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler. Prospection commerciale dans un instant, puis on va aussi parler de relations RH et de finances. Tout de suite.
Tech & Co Business, Startup Booster.
Et nous sommes avec Ludovic Granger. Bonjour Ludovic.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous, cofondateur et CEO de LeadBay. Alors on est dans comment trouver ses clients de demain. Vous allez tout comprendre dans un instant. Startup d'IA appliquée à la prospection commerciale B2B. Comme ça, ça ne fait pas très sexy. Vous allez voir, il y a beaucoup de techno derrière. Passé par l'accélérateur Y Combinator. Levée de 4,3 millions de dollars. C'était il y a quelques jours. Des clients, beaucoup de clients connus. L'Oréal, Saint-Gobain, Gerflor USA, Nespresso. Mais ça marche aussi pour les plus petites équipes commerciales. Moi, ce que j'ai vu dans les témoignages, 6 mois de travail de cartographie et de qualification d'un territoire, eh bien, tout ça, ça se transforme en 10 minutes quand on utilise LeadBay. Alors, expliquez-nous un peu comment ça marche.
Voilà, exactement, Frédéric. Donc, LeadBay, c'est un modèle d'IA qui va être capable de trouver et qualifier des sociétés. Et on est très bon pour trouver des sociétés qui ont peu de données ou peu de signaux. Donc, on a parlé de L'Oréal qui va chercher des coiffeurs. Il y en a d'autres qui vont chercher des artisans. Ce matin, j'étais chez un client qui vend des isolants pour des artisans aussi. Et donc,
mais c'est des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux, qui sont pas tellement beaucoup sur LinkedIn, qui sont pas beaucoup
dans les réseaux. Utiliser les outils de prospection actuels parce que c'est des sociétés qui sont pas ou peu présentes sur LinkedIn et qui génèrent pas de signaux. Mm-hmm. Et pour autant, c'est des milliers de sociétés qui, le PIB français, il est fait de 40% de sociétés qui sont des PME et c'est un marché qui est très difficile et qui coûte très cher à aller adresser. Et donc nous, on a un modèle d'IA qui connaît tout sur tout, sur toutes les sociétés françaises, qui va comprendre la même chose que pourrait faire un commercial, c'est-à-dire identifier des patterns de qu'est-ce qu'une bonne société pour mon business, qu'est-ce qu'une mauvaise société, et être capable d'extrapoler de la donnée qui pourrait être.
Mais où est-ce que LeadBay va justement aller chercher cette donnée? Alors évidemment, on avait les pages jaunes avant, repris par Solocal, mais est-ce que c'est sur des bases comme celle-ci? Comment ça se passe?
Il y a deux choses. Il y a aller chercher l'existant. Et donc ça, on a en Europe, on a l'INSEE qui répertorie pas mal d'informations. Aux États-Unis, il n'y a pas du tout ça, donc c'est un autre challenge. Oui. Et ensuite, il y a être capable de travailler avec de la donnée pauvre. Et donc c'est là que l'IA arrive. Mon associé, c'est un doctorant en IA, qui apporte ces modèles qui vont être capables de raisonner quand on a beaucoup d'informations qui sont manquantes. Et la même manière qu'un commercial pourrait lui faire lui-même avec son instinct de chasse qu'il a développé.
Je reviens sur ma question. Est-ce qu'il va lire des choses comme les pages jaunes? Est-ce qu'il va lire la presse locale, mettons? Et puis il va repérer quand on a une nouvelle boucherie qui s'ouvre, un nouveau salon de coiffure, justement, si on est à L'Oréal. C'est ça l'idée?
Ouais, on déploie des agents qui vont chercher l'information, donc qu'elle soit donnée par le gouvernement, par le site internet de l'entreprise, par les pages réseaux sociaux, d'accord, par la presse locale, par la participation participation à Vivatech, par exemple, bah, tout ça, on est capable de le lire et de récupérer la donnée de manière
instantanée. C'est trouver tout ce qui est invisible, quoi.
Trouver tout ce qui est invisible et être capable de travailler avec très, très peu de données. Mm-hmm. Parce que un coiffeur A et un coiffeur B, sur le papier, ils vont être exactement les mêmes. Pour autant, il y en a un qui va être susceptible de vendre des produits L'Oréal et l'autre, c'est pas du tout sa gamme de produits. Et donc, on va être capable au modèle d'IA de lui poser des questions et qu'il va raisonner et qualifier le marché pour isoler les bons des mauvais.
D'accord. Donc, en fait, pour vos grands clients, mais ça peut être aussi des équipes commerciales de structures plus petites. Le but, c'est vraiment ça, c'est de trouver des couches d'informations qu'on n'a pas dans le web, alors, ou même web 2.0, enfin, web traditionnel, quoi. C'est ça l'idée.
Oui, un commercial, aujourd'hui, il mettait des années à connaître son marché, à identifier tous les prospects, à les qualifier, à ensuite transformer. Et là, en un clic, il va pouvoir demander, quels sont les artisans français les plus susceptibles de vendre plus de 10 pompes à chaleur à l'année. Mm-hmm. Et on va être capable de qualifier 100 000 artisans français en un claquement de doigts.
D'accord.
Pour diriger Saint-Gobain uniquement vers les sociétés qui ont le plus susceptible d'acheter la dernière pompe à chaleur qu'ils ont sortie.
Donc, c'est aller repérer ces signaux faibles, hein, c'est ça l'idée ?
Exactement.
Et alors, sur quoi s'appuient les technologies que vous développez ? Donc, des moteurs d'IA, est-ce que c'est les moteurs d'IA que l'on connaît, que vous exploitez, ou alors c'est vos propres développements ?
Ouais, tout est propriétaire, parce qu'un modèle d'IA comme Mistral ou Claude, il va pas connaître cette donnée qu'on appelle du dernier kilomètre.
D'accord.
Donc, il faut que nous, on lui apporte. Donc, on va chercher tout ce layer, ce niveau de data, et on apporte ça. Ensuite, des modèles qui vont raisonner. Et puis, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans la consommation, le logiciel est mort. Enfin, je vois que 20% de nos utilisateurs aujourd'hui, ils nous utilisent depuis des modèles d'IA.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils consomment notre donnée et nos modèles pour avoir des réponses qui sont plus performantes et plus fines. Et puis, on a encore 80% qui nous utilisent sur les interfaces logicielles, mais on pense que d'ici quelques mois, l'ensemble de nos clients vont nous utiliser directement sur des interfaces qui sont LLM.
Donc, il prendra son ChatGPT pour prendre le plus connu. Il va dire, on va revenir sur l'idée, trouve-moi les 10 magasins qui vendent le plus de pompes à chaleur sur tel type de région. Et là, c'est là où, par le biais du LLM, il va aller chercher...
Oui, voilà. Donc là, on annonce cette semaine le lancement de l'IDB MCP.
D'accord.
Et on est déjà à la version 21 de MCP, donc on est déjà très en avance. Et en fait, on va être capable, du coup, dans les modèles d'IA comme Mistral ou Claude, envoyer des réponses qui viennent du contexte l'IDB. Et aussi des interfaces produits qui viennent des composants produits qu'on a. Donc, on va être capable de construire des applications comme ça, complètement sur mesure, en fonction de chaque entreprise, grâce à la donnée qui est donnée par l'IDB et aussi le contexte qu'on récupère au fur et à mesure de nos clients, parce que le modèle va auto-apprendre au fur et à mesure.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il va avoir des succès, des échecs, il va comprendre que c'est plutôt vers cette typologie de client qu'il faut se tourner.
Duvigranger, l'actualité, je l'ai dit, de l'IDB, alors c'est évidemment la signature avec ses clients, c'est cette levée de fonds, mais c'est aussi un départ aux États-Unis, c'est ça, dans quelques jours ?
Ouais, exactement, donc on vient de lever 4,3 millions de dollars avec notamment Y Combinator, qui est l'investisseur, à mon avis, le plus actif en early stage, à pré-amorçage aux États-Unis. Et donc, on ouvre un bureau à San Francisco. On a déjà pas mal de clients depuis quelques mois qu'on travaille et depuis la France et depuis les US. Donc, mon associé et moi allons être basés à San Francisco et on garde toutes nos équipes ici en France.
Et qu'est-ce qui est plus compliqué? Nous, on a peut-être des structures parfois de base qui sont un peu mieux faites, mais qu'est-ce qui est plus... On parlait de l'INSEE qui n'existe pas sous cette forme aux États-Unis.
Aux États-Unis, nos partenaires...
C'est un peu le Far West pour la data,
Ils nous ont dit, mais c'est un océan bleu, parce qu'il y a 40% du PIB américain, il est fait par des petites boîtes, et c'est impossible d'aller les chercher aujourd'hui. Et donc vous êtes capable d'apporter tout cet accès, en fait, à ce nouveau marché. Et donc il faut savoir qu'aux États-Unis, il a fallu qu'on aille état après état construire
C'est ce qu'on oublie de dire parfois, on voit un peu le marché.
Et donc on a la chance en Europe d'avoir ce qu'on appelle l'open data, et donc qui oblige les sociétés à partager un certain nombre d'informations, qui sont un très bon socle de data pour des solutions comme nous, pour pouvoir se lancer sur le marché.
En plus, l'aspect juridique derrière, c'est-à-dire on a accès à ces données qui sont en accès libre, en open data en France, mais j'imagine aux États-Unis, c'est
pas... il y a une frontière, enfin, qu'il faut passer à chaque fois à chaque État, mais effectivement ensuite. Voilà, soit on est nous propriétaires de ces données, et donc on donne accès à nos clients qui vont ensuite payer des quotas pour accéder à l'IDB.
Eh bien, on va suivre tout ça, évidemment, et cette installation aux États-Unis. Ludovic Granger, merci d'avoir été avec nous, cofondateur et CEO de l'IDB, donc start-up appliquée à la prospection commerciale B2B. Mais voilà, avec tous ces petits signaux faibles que l'on ne voit pas forcément, mais justement, vous arrivez à les retrouver dans cet océan bleu là de data. Et puis L'Oréal, Saint-Gobain, voilà, Gerflor, Nespresso, ils sont plusieurs à vous avoir déjà fait confiance. Merci d'avoir été avec nous. On marque une courte pause. Tiens, on va poursuivre dans les plateformes avec tout de suite le patron de Workday Europe. C'est tout de suite.
Tech & Co Business, l'invité.
Et oui, l'IA transforme parfois les métiers plus vite que les organisations. On va en parler avec notre invité Hervé Usan. Bonjour.
Bonjour.
Hervé, vous êtes vice-président Europe du Sud de Workday. Workday, c'est un spécialiste des RH et de la finance, mais on va vraiment rentrer un peu plus dans le détail. 11 500 clients dans le monde. Là, il y a un événement qui s'est déroulé cette semaine, c'est Elevate Paris. 1000 clients partenaires unis justement autour de la transformation des RH, de la finance, de l'IT par l'IA, parce qu'évidemment, c'est le passage obligé aujourd'hui. Il y a eu des témoignages Carrefour, Longchamp, Air Liquide. Je voulais démarrer par une actualité qui est juste un petit peu plus décalée d'il y a de 15 jours, 3 semaines, c'était à Choose France. 200 millions d'euros d'investissement en France, c'est ce qu'a annoncé Workday.
Exactement, 200 millions d'euros d'investissement sur les 3 prochaines années, donc c'est pour nous extraordinaire.
Ouais.
Et en fait, on pourrait se demander...
En France,
sur les 3 prochaines années, donc pourquoi la France hein, c'est déjà parce que c'est un pays magnifique, déjà, et en plus, c'est un pays stratégique pour nous, parce qu'en fait, sur les 3 dernières années, c'est le pays qui a cru le plus vite parmi les trois pays, les trois grands pays européens. Donc, on a décidé d'investir en France sur 3 piliers en particulier. Le premier, ce sont les talents. Aujourd'hui, on a déjà 20% de nos collaborateurs qui sont en recherche et développement, qui développent des produits spécifiquement pour la France. On a 30% de nos collaborateurs qui sont en région. Mais on a décidé d'aller beaucoup plus loin, d'accélérer en accompagnant la politique du gouvernement qui est de faire de la France un des pays leaders de l'IA en Europe.
Donc, les talents et enfin, talents compétences.
Les talents. On lance un projet avec France Travail qui est stratégique pour nous. On en a parlé justement à Elevate. Oui. On pourra en parler après si on a le temps. Le deuxième pilier, c'est l'écosystème. On souhaite développer notre écosystème, un réseau de VAR, de value added.
Oui, c'est ça, Julie. Il va y avoir des recrutements, plus de 500 consultants par.
Ah voilà, c'est France Travail. Exactement. Ouais, donc, on va recruter.
Ah oui, ça, c'est avec France Travail. Okay.
Voilà, avec France Travail, on va faire recruter par nos partenaires et par nos clients. Et on va former donc ces personnes-là. Donc, 500 au niveau de nos partenaires et plus de 500 encore chez nos clients. Et on a démarré le process en février. C'est déjà un énorme succès. Donc, à mon avis, on va faire beaucoup plus que 1000. Donc, ça, c'est quand même une super nouvelle.
Donc, former à l'IA et puis à l'IA et en entonnoir formé voilà, autour de toutes les technologies Workday.
De Workday, l'agentique.
D'accord.
Et donc, on va, voilà, donc nos partenaires et nos clients vont les recruter pour déployer des projets successful. Donc, ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est notre écosystème. Donc, on en a parlé un petit peu. Donc, c'est de recruter des nouveaux partenaires sur toute la France pour être plus proche de nos clients. Mais c'est aussi de co-développer avec eux des applications autour de Workday. Et c'est aussi d'investir dans des startups et dans des scale-up avec Workday Venture pour développer aussi des applications autour de Workday. Donc ça, c'est le deuxième pilier, donc qui est hyper stratégique pour nous parce que sans partenaire, on n'est rien. Et le troisième pilier, c'est l'innovation. Donc avec le lancement d'un nouveau produit qui s'appelle Workday Go pour adresser les ETI. Aujourd'hui, Workday est plutôt une image grand compte.
Oui.
Plus de 50% du CAC 40 est équipé de Workday. Et aujourd'hui, on a décidé de démocratiser cette technologie pour les ETI à un prix préférentiel, avec une implémentation aussi à un prix préférentiel. Et donc, toute cette technologie-là va être disponible maintenant pour les petites entreprises, je dirais.
Aujourd'hui, là, je reviens un instant sur Vivatech. On parlait beaucoup de souveraineté au sein de Vivatech. Alors, j'ai vu que vous aviez sorti une offre qui s'appelle Workday European Sovereign Cloud.
Oui.
Ça, vous sentez que là, il faut forcément montrer, même si on est éditeur américain, on doit montrer patte blanche de plus en plus en Europe pour avoir accès aux entreprises.
Oui, c'est clair. Enfin, moi, je rencontre nettement beaucoup de clients en France et à chaque rendez-vous, on parle de ça.
Donc, oui.
c'est le sujet dont on parle le plus. Peut-être un petit peu après l'IA, petit peu après l'IA, mais c'est quand même le sujet majeur. Et donc, effectivement, donc on a écouté nos clients et donc on a lancé une offre qu'on appelle, comme vous le dites, EU Sovereign Cloud. Qui répond en fait aux besoins de nos clients français, c'est-à-dire que les données sont en France, les data centers sont en France, elles sont opérées par des Européens, et c'est l'objectif de la souveraineté. Donc
on a cette partie-là,
et elle sera disponible dès juillet, dès le mois prochain.
Alors ce que je remarquais aussi, c'est que de plus en plus vous définissez, je disais tout à l'heure, spécialiste des RH et de la finance, mais c'est là vous dites, la nouvelle définition que Workday se donne, c'est une plateforme d'IA agentique dédiée RH et finance. Ça c'est pour montrer aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de la SaaSpocalypse. chips, hein, en se disant les éditeurs de SaaS, ça y est, ils vont être menacés. On le disait il y a un instant avec notre invité précédent, on va taper des requêtes dans ces LLM et puis on aura accès à tout un ensemble de choses. Pourquoi aller payer des licences aux éditeurs de SaaS? Mais là, c'est là où vous dites, ben non, nous, on est indispensable de toute façon.
Oui, on considère qu'on est indispensable. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait le monde SaaS qui apparaissait, c'était génial. On pouvait accéder à son application via le navigateur, c'était magique, etc. Aujourd'hui, c'est le next step. Hein. C'est l'évolution du SaaS. Et rien que la semaine dernière, on a annoncé beaucoup de choses autour de l'IA. Par exemple, maintenant avec Workday, vous pouvez développer des agents en langage naturel directement sur cloud. Vous avez de la sécurité aussi au niveau des agents certifiés par Cisco. Donc on adresse complètement, effectivement, la RH et la finance, c'est le cœur de notre métier.
Oui, c'est ce que ne va pas faire un LLM. Il ne va pas aller dans ce degré de paramétrage, quoi.
Exactement, de sécurité. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez lancer une promotion d'un collaborateur avec un LLM, vous pouvez le faire. Mm-hmm. Vous pouvez aller jusqu'au bout du process avec un agent connecté complètement à notre plateforme. Nous, on a 80 millions d'utilisateurs, on a plus de 11 500 clients dans le monde, donc on connaît tous ces métiers-là, on a la donnée. Ben, en fait, vous passez par un process, parce qu'il faut des validations, par exemple, pour une promotion. Ben, avec un LLM, vous passez directement sans validation avec notre technologie. Oui. Vous faites exactement la même chose, mais vous passez par la sécurité de l'entreprise.
Et Hervé Hussard, j'avais aussi une question. Comment mieux accompagner le changement? Parce que tout ça, c'est vrai que si on met juste de l'IA sur l'existant, ben oui, ça peut marcher, mais c'est pas l'idéal. Aujourd'hui, on dit qu'il faut complètement transformer les organisations, etc. Mais il faut transformer aussi les gens dans leur façon de travailler. Et justement, comment vous accompagnez justement ce changement, surtout dans des fonctions RH, finance, qui sont très réglementées, il y a de la conformité, donc voilà, les faire bouger, dire voilà, le gain de ROI n'est pas aussi évident tout de suite. Comment ça se passe?
Ouais, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on voit de l'IA, c'est que ça génère une énorme promesse, mais il y a aussi un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a fait quelques études récemment, on a vu que 86% des collaborateurs utilisaient l'IA déjà, et ils considéraient qu'ils étaient plus productifs grâce à l'IA. Mmh. 62% d'entre eux considèrent que leur risque de burn-out a été réduit grâce à l'IA. Donc c'est quand même une excellente nouvelle. Oui. Mais en parallèle, 27% des entreprises utilisent l'IA connectés à leur processus métier ou leur processus clé. Donc seulement 27%, j'allais dire. Donc c'est pas énorme. Donc il y a deux IA, il y a l'IA de l'entreprise, il y a l'IA personnelle de l'entreprise. Donc il y a des silos, il y a un silo qui se crée. Et on considère, nous, chez Workday, qu'on doit faire deux choses. Premièrement, former les collaborateurs à l'utilisation de l'IA dans le cadre de l'entreprise, connectée à leur processus, et évidemment de connecter cette IA au processus métier. Et c'est la vocation, en fait, de notre plateforme unifiée RH finance, qui donne le point pouvoir, en fait, à l'IA et à la donnée unifiée.
Comment on s'en sort? Parce qu'il y a autre sujet dont on parlait beaucoup, qui monte et dont on parlait beaucoup, Viatech, c'est toute cette économie des tokens. Comment justement quelqu'un qui est adhérent, qui utilise la plateforme Workday, se laisse pas déborder par tous ces tokens qui vont venir s'ajouter à la moindre requête que l'on fait en IA?
Ah oui, alors ça, c'est la vraie question du moment. C'est-à-dire que c'est vrai que jusqu'à présent, dans le monde SaaS, on pouvait faire un tarif par utilisateur ou par nombre d'employés. Donc c'était
On a vu des Microsoft qui changent leur business model et tout ça.
Voilà, exactement. Et nous aussi, on le change. Donc il faut adapter notre business model, parce que maintenant, on ne peut plus avoir un business model uniquement par employé ou par utilisateur, parce qu'en fait, les agents utilisent nos produits. Ah, donc on a adapté. Donc on a maintenant une tarification qu'on appelle Flex Credit, qu'on a annoncé récemment et qu'on partage avec nos clients. Et le but, c'est de cadrer justement les dépenses et de ne pas exploser les dépenses quand on utilise l'IA de Workday.
Eh bien, merci Hervé Hussard d'être venu parler de tout ça. On le rappelle, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y avait un événement cette semaine qui s'appelle Elevate Paris, avec des cas clients, enfin voilà, plein de témoignages. Merci d'être venu nous parler de tout ça. On marque une courte pause et tiens, on va retrouver nos experts IA pour un débrief de l'actu IA. C'est tout de suite sur BFM Business.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Allez, on est parti sur notre débrief de l'actu IA. Il y a beaucoup de choses à raconter, évidemment, avec ce fameux kill switch d'il y a déjà une semaine. Et on va revenir dessus. Et ça nous laissera rebondir sur Vivatech aussi, parce qu'il s'est passé pas mal de choses aussi à Vivatech, sur SpaceX qui a racheté Cursor. Là aussi, c'est un des gros événements dans l'actu IA. Et puis, tiens, on terminera avec OpenAI, avec une équation. Est-ce que l'équation est impossible? Vincent nous expliquera tout ça. Et on débriefera avec, justement, Vincent Champin, président de l'Observatoire l'Observatoire du long terme, patron du digital chez Framatome, membre du COMEX. Merci Vincent d'être avec nous. Stéphane Roder, fondateur des AI Builders. Bonjour. Merci Stéphane. Et Emmanuel Vignon, Head of AI et vice-président engineering chez Generix. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Frédéric.
Merci à tous. On démarre. Alors, on a suivi ça, hein, tout le monde a vu, on voit un soir arriver sur nos annonces là, de presse, Claude sort deux versions de Mythos. Alors, une qui est un peu plus puissante, mais vraiment sera destinée à qu'un ensemble précis de personnes. Et puis, quelques jours, et puis Mythos, et puis Fable 5, qui sera une version un peu bridée pour un peu le tout venant. Et puis, quelques jours plus tard, ah non, finalement, ce sera bien, mais que pour les citoyens américains. Les citoyens américains, les entreprises américaines, par ricochet, n'y auront pas accès. Et ça, ça nous apprend pas mal de choses, tout ça. Stéphane.
Oui, ça nous apprend que...
Alors Stéphane, là, c'est comme une tondeuse. Hein, je démarre, je lance le et c'est parti. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais vous aussi.
Non, mais on voit que finalement, un des moteurs de l'industrie va être l'IA. Là, on avait un modèle Fable 5, pour le coup, qui exécutait de longues tâches, donc qui marchait très très bien pour tout ce qui est prise en charge, en fait, de longs raisonnements, actionnant des outils et des agents, de la gentille, qui finalement, toute la partie BPO que souhaitent reprendre les Américains. Et bien, on voit que c'est une décision business. Ça aurait pu être une décision sécurité sur Mythos. C'est
oui, on le rappelle, hein, première, au tout début, quand ils ont lancé Mythos, Anthropique avait dit, attends, on va pas le donner à tout le monde parce que c'est tellement puissant, ça va chercher des failles partout, donc on va le donner à des Microsoft, des Palo Alto, des spécialistes, enfin des gens vraiment sélectionnés sur le...
Là, c'était bridé sur la cyber.
Oui.
Donc, si la cyber n'était pas là, c'est que c'était sur la productivité. Mmh. Et donc, en fait, ils ne lâchent pas un modèle qui semble être ultra performant, sur lequel ils veulent être le seul utilisateur. Et donc, finalement, c'est un peu comme si on avait, nous, du 50 volts, alors qu'eux, ils ont du 220, au point de vue, finalement, moteur de l'industrie.
Est-ce qu'il n'y a pas un effet politique aussi? Parce qu'on sait que, voilà, entre Anthropique et l'administration Trump, ça ne se passe pas forcément hyper bien.
Il paraît qu'il y aurait eu un coup de fil de Jeff Bezos pour dire...
Ouais. Vincent.
Non, mais alors, d'abord, c'est pas un kill switch. Il y a effectivement un désaccord entre les États-Unis et Anthropique avec des infos contradictoires.
Hein,
la presse, les US disent Anthropique n'a pas été réactif, donc on a agi. Anthropique dit on l'a été, mais on ne savait pas limiter à des non-américains cette technologie. Il faut aussi noter que le risque, trouver des vulnérabilités avec un modèle, en fait, quand on regarde bien Mythos, ils ont bien marketé leur modèle, mais les autres modèles permettent la même chose. Mm-hmm. Et d'ailleurs, les protections qu'on met sur ces modèles n'enlèvent pas cette possibilité. C'est-à-dire qu'il y a toujours des façons de les contourner. Il y a même des repos GitHub dans lesquels il y a des modes d'emploi de contournement, modèle par modèle. Donc effectivement, il y a des personnes qui ont montré comment on pouvait contourner sur Fable. Il y a cet échange qui s'est mal engagé et puis ça a été arrêté. Alors, du point de vue du risque pour les entreprises, il n'y avait aucune entreprise dans le monde qui avait déployé Fable.
Oui.
Il n'y avait aucune application qui l'utilisait. Il venait de sortir, les gens étaient en faire le test. En revanche, effectivement, ça frappe l'esprit. Alors, ça frappe l'esprit parce que ça rappelle qu'il y a un risque. Le logiciel mange tout et malheureusement, le système digestif, il est aux États-Unis. C'est pas la première fois qu'il y a eu des interdictions. D'ailleurs, toute technologie qui est un peu avancée, à un moment, elle fait l'objet de restrictions d'export. La cryptographie, il y a quelques années, on avait impossibilité d'implémenter certains algorithmes, ou alors c'était un problème d'export de contrôle américain. Alors, la conséquence pour nous, il faut ça nous rappelle des choses que les entreprises qui gèrent leur souveraineté ont déjà en tête. C'est il faut gérer ses dépendances, donc il faut avoir d'autres choix. Il ne faut pas dépendre d'un seul modèle. Demain, il peut être arrêté. Et si l'essentiel de votre opération dépend de ce modèle, vous pouvez avoir un problème demain. Et puis, deuxième point, il y a la question des alternatives européennes. Alors, les Européens, comme alternative, ils ont des modèles chinois, notamment aujourd'hui, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et on aimerait bien qu'il y ait des solutions non-américaines. Moi, je rêverais d'un accord entre quelques grands pays européens, les Canadiens, les Australiens, on met 1 ou 2 milliards et on a un modèle open source qui est ni chinois ni américain de bonne performance.
Oui. On n'arrive déjà pas à se mettre d'accord entre les Français et les Allemands. Donc je ne sais pas si cette vision sera possible, mais sur ce qui s'est passé avec Fable 5, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est la concrétisation d'une théorie qui avait été écrite par plusieurs auteurs ou plusieurs articles, dont ça me rappelle le livre de Asma Mala qui est sorti en 2024,
oui, qui était sur la géopolitique,
voilà, technopolitique, et qui parle justement de cette fusion un peu des deux mondes, big state et big tech, et qui explique que en fait les deux mondes sont en fait extrêmement liés l'un entre eux. Et donc elle parle de cette souveraineté liquide où finalement on n'arrive plus trop à savoir si la souveraineté c'est l'apanage d'un État, d'un corps étatique avec son pouvoir régalien, ou si finalement il y a une transmission de ce pouvoir qui est donnée à les entreprises. Et en fait on voit bien que Trump a besoin de ces technos-là pour maintenir la sécurité sur le territoire américain, mais en même temps Anthropique il a aussi besoin, pour ne serait-ce que pour maintenir une équation économique, de pouvoir déployer ces modèles au-delà du modèle, au-delà du marché américain.
Et surtout d'avoir des salariés non américains.
Et surtout d'avoir des salariés.
Qui sont la majorité d'ailleurs dans cette industrie.
Ouais. Voilà.
Et est-ce que tout ça, Stéphane, est-ce que c'est quelque part ça un petit électrochoc pour l'Europe aussi? On parle de souveraineté, on voit bien que ça y est, c'est monté. Alors souveraineté, il y a plein de choses, la dépendance technologique, dépendance économique, enfin, gardons un peu ce mot ombrelle souveraineté. Là, ça nous dit que ça joue quand même un peu en notre faveur, à nous Européens, là, des décisions comme celle-ci.
Oui, mais il faut qu'elles soient comprises. Regarde, ce qui a été dépensé sur l'AI Act, c'est certainement des centaines de millions, alors qu'aujourd'hui, on a pratiquement pas d'IA, finalement, d'infrastructure IA. Donc, en fait, on a une commission...
Ça se construit, mais enfin, voilà.
Oui, mais on a une commission européenne qui n'est pas consciente. Ou alors, on a un personnel politique qui, au global, depuis 5 ans, ne comprend pas les enjeux. Ou commence à les comprendre. Mais en tout cas, il faut qu'ils se reprennent et qu'il y ait des décisions politiques, pour le coup, qui nous permettent d'avoir des alternatives et non pas un seul modèle provider comme on a aujourd'hui, qui est certainement excellent mais qui est sous-financé. Il faut rappeler quand même qu'il n'y a qu'une seule banque française qui a investi dans Mistral, ce qui n'est pas normal.
Et qui est BNP.
Oui, BNP, mais il en faut d'autres. Il faudrait que tout le monde s'y mette. Il faudrait que ça soit surinvesti, en fait. C'est tellement maintenant stratégique, on le voit. Ça va être au cœur de la dynamique de la transformation des entreprises et de la compétitivité. On le dit depuis longtemps, mais là, je pense que c'est une réalité.
Vincent, réaction européenne.
Un commissaire européen qui m'avait dit, l'indépendance, c'est dépendant d'influences contradictoires. Donc il y a une partie de l'indépendance pour nous qui est effectivement d'avoir plusieurs fers au feu entre les modèles chinois, américains. Bon, on aimerait bien quand même qu'il y en ait un européen de performance comparable, ou en tout cas non américain. Du point de vue de l'Europe, je pense que le risque, c'est quand même toujours aussi... Alors il y a toujours deux risques. Le combat majeur de la productivité, il se fera 90% sur la diffusion. Et donc évidemment... être propriétaire de la technologie du modèle, c'est important. Mais si pour ça, on met tellement de freins à nos entreprises qu'on perd le combat à la diffusion, on y perdra. C'est un peu le truc de l'IA Act, qui est un machin qui met des boulets aux pieds de nos entreprises. Donc je pense que là, effectivement, ça nous rappelle, c'est bien de rappeler des évidences, et quelquefois les gens ont plus besoin d'exemples qui frappent que de théories, donc de ce côté-là c'est bien. Je pense que ça nous rappelle on est en retard sur ces composantes, c'est bien. Attention au combat de la diffusion pour Internet, c'est là-dessus que c'est fait. Internet a créé à peu près 20 points de PIB sur 25 ans, 90% c'était de la diffusion. Donc attention au combat de la diffusion, celui-là il fait pas de bruit, c'est des petits systèmes qui bougent dans des PME, mais c'est celui qui fera le plus mal si on le rate.
Je pense qu'il y a alors la réaction, je ne sais pas si c'est lié à cette histoire de Fable 5, mais on en a beaucoup parlé, notamment parce que ça a été annoncé à Vivatech. Chaps Vision, qui remplace Palantir à la DGSI, c'est typiquement ce genre de signaux qu'il faut multiplier pour montrer qu'il y a une décision de la puissance publique d'investir sur des solutions qui sont européennes ou françaises.
Oui, mais ça aurait dû être il y a 5 ans.
Peut-être, mais réjouis-toi que ça se fasse aujourd'hui.
Je me réjouis énormément.
Voilà. Et je pense qu'il en faut d'autres. Il en faut probablement d'autres, mais même.
Mais en même temps, l'avis de Jeff Bezos.
Oui. moi, je me réjouis le jour où on dit on le fait parce que la solution européenne est vraiment plus performante. Mm-hmm. Là, on sait que ce jour-là, on n'a pas pris de risque sur la diffusion.
Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts parfois à dire. Enfin, moi, on entend ce discours. Hein, oui, j'ai pris une solution. Alors, elle est un peu moins performante. Bah, notamment Mistral,
c'est pas un problème.
La Mistral, c'est ça. Ou elle peut être moins performante sur certains domaines, mais au moins là, je suis tranquille.
Enfin, ouais,
mais
en fait, on peut faire jouer à l'achat public un rôle qu'il déplace. C'est-à-dire que la DGSE, c'est particulier. L'achat public en général, l'État, il est plutôt low-tech. Donc, penser que c'est par l'achat public qu'on rattrapera le combat des modèles et qu'on accélérera le combat de la diffusion, voilà. C'est avoir raté la courbe.
Exactement. 90%, enfin, j'ai pas fait d'études, machin, mais 80% ou 90% des use cases d'IA aujourd'hui ne requièrent pas Fable 5, en fait. Et même pas un frontier modèle. Donc, en fait, commençons par des cas d'usage relativement simples. Commençons par travailler sur l'acculturation de l'IA en entreprise avec les modèles qu'on a à notre disposition. Et je reprends ce que tu dis, Vincent, ça peut être très bien des modèles chinois dès lors qu'on arrive à les déployer sur une infrastructure on-premise. Faisons-le. Et puis surtout, plus on va mettre des utilisateurs et de l'argent dans les solutions européennes, et plus elles vont se développer, plus on va leur donner les moyens qu'elles se développent.
Et de ce côté-là, le développement de Mistral est vraiment une bonne chose. Leur stratégie d'attaquer par vertical, c'est quand même dans ces verticaux, notamment industriels, que je voulais compléter.
Et que les entreprises jouent le jeu aussi, qu'elles y aillent aussi. On l'a vu lors de l'événement Mistral.
Mais à la fin, c'est toujours l'économie qui gagnera. Donc, il faut vraiment que ça fonctionne de façon performante.
Oui, mais Vincent a dit une chose très importante, c'est l'utilisation. Aujourd'hui, si tu regardes la popularité ou la notoriété de Mistral, ils sont totalement inconnus. Les gens connaissent OpenAI, ChatGPT.
Spontanément, oui.
Oui, spontanément.
Non, c'est pas vrai. Spontanément, les gens, ils pensent à Mistral.
Non, parce que Vincent parlait des ETI et des PME et de la diffusion. Ouais. Et la diffusion, elle est importante. Et aujourd'hui, on a. Alors, Arthur Mensch, très très bon technicien, ingénieur, extraordinaire et tout. Par contre, être marketeur, il faut faire du marketing à l'américaine, mais bien sûr, pour que ça soit connu.
Je pense qu'il a choisi une course différente. Et je pense que de l'intérêt de la France, faire que le design nucléaire et les recherches de données de la DGSE se fassent avec Mistral, et que le tout un chacun utilise des solutions de marché américaines, je pense que c'est mieux que l'inverse. Et leur choix de la verticalisation qu'ils ont répété, c'est vraiment de mettre le paquet là-dessus. Donc, une partie du marché que tu évoques, en fait, n'est pas dans leur cœur de cible aujourd'hui.
Oui, mais il n'empêche que tu as bien dit qu'il fallait que les gens l'utilisent pour que ça existe.
Ouais.
Bon, donc il faut que ça soit connu.
Alors justement, tiens, un petit mot. Est-ce que vous êtes tous les trois allés à Vivatech ?
Oui.
Ouais.
Ouais. Les retours, je ne sais pas, Vincent, quel premier retour tu en as ?
Alors,
autour de l'IA, bien entendu.
Dans les constantes, il fait chaud, il y a beaucoup de stands.
C'était sur trois niveaux, parce que
beaucoup plus grand
que les
autres. Les halls étaient en travaux.
Ils ont verticalisé le salon.
Voilà, ils ont verticalisé. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui connaissent la partie, il y a un grand immeuble qui se construit, du coup, je suis en train de tout refaire en bas. C'est sur trois niveaux. Les allées étaient plus étroites. C'était un peu moins pratique, moi, j'ai trouvé.
C'est un peu la Fashion Week du digital, sauf que là, les modèles sont plutôt des modèles IA. Plutôt intéressé par les modèles IA que par ceux de Dior, donc ça tombe bien. Il y a quand même beaucoup de keynote centrés autour des grands acteurs américains. Oui. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on vient de dire, qui est un peu dans l'esprit de tout le monde, ça crée un écart. Donc je pense que l'an prochain, à mon avis, ça sera très différent.
Alors, quelqu'un m'a fait cette remarque. Ouais.
Peu de speakers chinois également.
On parle beaucoup de souveraineté. Il dit on parle beaucoup de souveraineté dans les allées, mais dans les keynotes,
Jeff Bezos qui parle.
Ça n'était que de.
Sûr que Jeff Bezos il fait venir aussi. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver.
Il y a des acteurs IA qui auraient fait venir aussi. Tu aurais fait venir la ministre de la Défense européenne. Tu aurais eu un panel sur ces sujets-là, sur la souveraineté. Ça aurait fait venir aussi. Bon, après, je pense que ça s'est fait plus en amont. Ils n'avaient pas prévu Mythos une semaine avant l'ouverture de Vivatech.
Oui, c'est sûr. Non, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un salon qui grossit, qui prend de l'ampleur, qui s'internationalise beaucoup.
Il y a beaucoup de pavillons étrangers.
Énormément de pavillons étrangers.
Polonais, indiens.
Allemands.
Allemands, 200 startups allemandes, deux ministres fédéraux allemands qui se déplacent. Donc ça positionne Vivatech comme étant le CES européen.
Et la France au passage, ce qui est bien.
Forcément. Puisque c'est en France. Et a pas de salon équivalent en Europe. Il y a pas de salon équivalent en fait.
Et donc Cebit en Allemagne qui était
ouais, à l'époque. La
Cebit, c'était de la micro-informatique à la machine-outil. Hein, c'était
Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est les robots. Il y a beaucoup de physical AI. C'est Jensen Huang qui disait ça dans sa keynote, qui parlait de physical AI. Alors, ça a déjà certainement été employé, mais il y avait beaucoup plus de robots que les années précédentes, ouais. De robots humanoïdes.
Et encore, il y aurait dû en avoir plus, mais comme on dit certains constructeurs, ils me disent oui, mais tu comprends, au prix du mètre carré, parfois, on se dit à quoi ça sert de montrer 5-6 robots, enfin de payer très cher, parce que c'est, oui. Les stands, il y a des stands à plus d'un million d'euros.
C'est un peu cher.
Donc, parfois, pour montrer 3-4 robots.
Ça montre que la R&D des robots humanoïdes l'écart entre la Chine et l'Europe se réduit un peu. Alors, bien sûr, Unitree est toujours un peu l'acteur principal worldwide, mais quand même, j'ai trouvé ça.
Moi, je trouvais que c'était un peu. Il y avait un côté exposition universelle annuelle, parce que les grands groupes étaient là pour démontrer, en fait, le niveau de technicité à travers peut-être l'IA.
Mais d'ailleurs, ils montraient sans la montrer. Enfin, oui, ils montraient leurs innovations, et c'est à la fin, tout en bas, c'est marqué by la start-up en question.
Voilà.
Ça, c'est quelque chose qui a changé. Avant, on mettait en avant les start-up qui étaient autour du. Alors, on mettait là le grand Fagnon, LVMH, Total, EDF, et puis autour, il y avait les start-up. Et là, c'était, je voyais chez LVMH, c'était toutes les marques, et les start-up, elles étaient à l'intérieur. Enfin, elles s'effaçaient pas, mais ils avaient intégré des technos.
Le mortard a repris la main.
Ouais, c'est ça.
Le mortard a repris la main et. Bon, en fait, c'est l'entreprise qui se met à nu et montre en fait son innovation. Et par contre, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas encore de solution côté IA, mais c'était encore très très technologique. On fait ça, on fait ce modèle, on fait ce truc-là, alors que on est en plein dans la transformation des directions métiers. Et donc, en fait, la demande vient d'arriver, et ben on voit bien que l'offre, elle n'est pas là.
Ouais. Un point, une image qui a frappé tout le monde, hein, c'est ces deux robots qui défoncent complètement la SAD.
Qui cassent les écrans, ouais.
Bon, alors on se dit, ça y est, les gilets jaunes débarquent à Vivatech. Non, en fait, ça rappelle ce que dit très bien Yann Lequin, c'est-à-dire que les robots qu'on voit qui font des danses, en fait, tout est scripté. Et s'il y a un écran à l'endroit qui n'était pas prévu, là, je pense que c'était Unitree, donc des très bons robots. En fait, les robots d'aujourd'hui ne sont pas intelligents. Ils reproduisent des gestes qui ont été complètement
scriptés. Ils dansaient à un moment dans leur chorégraphie. Ouais. Ils étaient trop près des écrans. Du coup, c'est comme s'ils détachaient les écrans. Et c'est vrai que l'image était assez impressionnante. Ouais. Non, ce que j'ai trouvé, c'est ça. C'est l'histoire de start-up. Et je me suis dit, pour les quelques gros, alors patrons, hein, pas des head of AI ou des DSI, je me suis dit que c'est retour à la réalité aussi. C'est-à-dire que les patrons se rendent compte que l'IA, c'est important. Mais que faut avancer pas à pas, quoi. Les cas d'usage, faut voir ce qu'on veut, faut voir en plus comment ça peut influer les organisations des entreprises, et que c'était pas juste où l'année dernière on se dit allez, je vais mettre de l'IA partout, ça va être formidable.
C'est ce que disait Vincent, c'est le temps de la diffusion, c'est que le time to production est encore beaucoup trop long. Le rythme d'innovation des modèles est beaucoup trop rapide par rapport à la capacité que vont avoir les entreprises à les intégrer, à les digérer pour les déployer à l'échelle.
En tout cas, bel événement, et puis ça permet, on va mettre 650 millions d'euros annoncés par Sébastien Lecornu dans notre administration. Enfin voilà, on voit que c'est bien qu'il y ait quand même ce rendez-vous qui rappelle un peu que.
Mais c'est important ce que tu dis, Emmanuel, c'est qu'on n'a pas encore les produits non plus qui permettent d'installer facilement. Tu vois, c'est encore compliqué, il faut encore des gens comme nous. Mais on ne devrait pas être là.
Mais oui, mais parce que
aujourd'hui, quand tu installes Windows ou quand tu installes Word, bon, ça se fait comme ça.
Mais c'est très simple, c'est que l'IA se nourrit de données, qu'elles soient structurées ou pas structurées, mais en tout cas de données sous forme de 1 et de 0. Or, les processus métiers sont dans la tête des gens.
Oui.
Donc il faut que tu aies un mécanisme qui soit capable. Alors c'est marrant, à Vivatech, il y avait aussi cette expérience-là de contrôle d'un robot par la pensée. Tu l'as pas vu celui-là un peu,
alors casque, on sait.
Ouais, qui permet de voilà, donc peut-être que demain il y aura des interfaces cerveau-machine qui vont permettre de collecter les besoins métiers, les processus métiers.
C'est propre à toutes les phases d'innovation. Donc un, t'as l'exploration, ça part dans tous les sens. Deux, t'as la standardisation, la technologie devient simple et n'importe qui peut l'utiliser. Puis trois, tu déploies. L'automobile, au début de l'automobile, il fallait être mécanicien. Aujourd'hui, personne ne sait comment elle fonctionne, même d'ailleurs les gens auxquels tu la confies, ils changent la carte électronique. Donc on est au début, et je trouve que c'est bien là qu'on voit qu'on passe de la phase exploration dans tous les sens à quelque chose où on se pose la question de comment ça arrive sur les process, et ça prendra 20 ans au lieu de 3.
Oui.
Autre sujet important, c'est SpaceX qui a racheté Cursor. Donc, on est dans les outils de développement. Emmanuel ?
Oui, alors en fait, on voit que le LLM devient une commodité. Et donc, ce qui compte derrière, c'est le harnessing. Hein, on en avait déjà parlé aussi il y a quelques semaines. C'est qu'est-ce que je mets autour ?
Et
on
voit bien... Rappelons, hein, pour ceux qui nous écoutent.
Donc, le harnessing.
Non, et puis même Cursor, c'est un assistant au codage.
C'est un environnement de développement, mais qui vient avec des petits composants qui vont améliorer la manière dont un développeur va interagir avec un LLM derrière. Voilà. Donc, il va, par exemple, lire l'intégralité des lignes de code, enfin on appelle ça la code base, la base de code, il va l'indexer de façon locale pour améliorer ensuite les tâches de planification ou les tâches de codage. Mm-hmm. Voilà, c'est un exemple de ce que fait. Et ce qu'on voit, c'est que Microsoft, OpenAI, Anthropic et maintenant SpaceX sont les quatre qui sont dotés à la fois d'un LLM et d'un environnement derrière. Hein. Donc Microsoft avec GitHub Copilot, OpenAI avec Codex.
Ouais. Qui est plus un agent peut-être que Cursor, qui est plus l'environnement global.
Oui, mais chacun, justement, c'est là où c'est intéressant. Chacun a un peu ses paradigmes différents ou ses approches un peu différentes. Et on verra bien. Moi, je pense que c'est ça qui est excitant, c'est que les approches ne sont pas juste je copie ce que fait l'autre. Voilà. Et Anthropic, bien entendu, avec Claude Code. Et donc SpaceX arrive, SpaceX avec XAI, Grok, etc.
Slash XAI,
ouais. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ça devient un acteur qui arrive sur la scène parmi ces quatre-là. Et je dois reconnaître quand même que le calendrier avec l'IPO de SpaceX est fabuleux. Ouais.
Mais on voit qu'ils font finalement tous des suites complètes. Et on les voit les compléter, tu vois. Claude a mis des composants qui vont faire de la concurrence à Adobe, d'autres sur le code. Et donc, ils sont tous en train de gratter des parts de marché en élargissant le scope de leur suite.
Oui, alors ce que ça rappelle aussi, c'est que la killing application de l'IA, aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule, c'est le codage.
Ouais.
Et donc, ouais. Un moment, et on en parlera peut-être après, où les gens se posent la question, est-ce que tout ça est soutenable, est-ce qu'on continuera à faire autant de tokens, on a intérêt à avoir cet aspirateur à token qui est un outil pour que les développeurs l'utilisent.
Mais ça permet de rebondir justement sur...
Et le deuxième point, après ça pose pour moi des questions de cohérence, quand même la stratégie de SpaceX, parce qu'on a, je rappelle, on a diffusé 1 million de data centers dans l'espace, l'IA de Grok qui servait à faire des images, des fakes sur Twitter, donc maintenant Cursor, donc 20 sur 20 pour l'accumulation des buzzwords, ils ont tous la cohérence stratégique pas très claire.
Si tu la cherches, tu peux dire que justement, ils créent des fusées pour envoyer des data centers dans l'espace parce que Elon Musk, tout comme Jeff Bezos d'ailleurs, croit dur comme fer que ça va se passer dans l'espace, ce qui reste à prouver globalement. Et après, ils ont leur modèle qui certes a fait parler de lui parce qu'on générait des images un peu inutiles, mais je pense qu'il y a d'autres acteurs aux États-Unis qui utilisent Grok pour des usages tout à fait respectables.
Alors ça, et voilà. Ça permet de rebondir justement OpenAI, c'est un billet que tu as fait sur X en disant l'équation impossible.
On voit, il y a un indicateur qui s'appelle l'indicateur de dépense de token, on voit qu'il est passé d'à peu près 2000 à 1600, donc réduction du volume d'utilisation de token. Deuxième point, sort GLM 5.2, un modèle chinois qui fait aussi bien que chez PT 5.5, enfin, c'est très comparable pour un cinquième du prix,
ouais, c'est ça.
Et comme le prix est subventionné à 2/3, un quinzième du coût. On a dans le FT des données d'Open Router, qui est un dispatcher de tokens, qui montre que x5 sur les tokens chinois, stable sur les tokens américains. Et puis, en même temps, il y a une introduction en bourse. Donc, il y a SpaceX qui a levé 86 milliards. OpenAI qui veut en lever 120. Anthropic, on ne sait pas. Leur dernière levée, c'est 70 milliards. Donc, il y a des centaines de milliards en fait, qui vont être demandés au marché. Alors que derrière, on voit que c'est un produit dont le coût est challengé et dont le volume l'est aussi. Donc là, la question, c'est comment on boucle l'équation pour un investisseur.
Et Emmanuel, là, sur cette équation impossible, là, pour...
Je ne sais pas si elle est impossible. Je pense qu'il y a aussi des signaux qui montrent que le bilan de OpenAI s'améliore. Par exemple, le chiffre qu'on peut utiliser, c'est pour... Enfin, c'est le cost of sales. Combien OpenAI dépense pour générer un dollar de revenu ? Ce coût, il était autour de 2,60 $ pour un dollar de revenu. C'est-à-dire que OpenAI dépense 2,60 $ pour un dollar de revenu, tout confondu, hein, R&D, cost of sales et tout ça. Et aujourd'hui, il est passé autour de 2,37 $ en 2024 et on est à 1,60 $ aujourd'hui. Voilà. Donc, et ça se réduit. Donc quelque part, peut-être que OpenAI est en train aussi de trouver son modèle économique, toute chose égale par ailleurs. Bien entendu, c'est là où ton point est intéressant.
C'est plus qu'il disait sur notre antenne que justement les milliards d'investissements. Écoutez, c'était chez François Sorel, Octave Cabat de VH Cloud, qui disait, vous savez, les milliards aujourd'hui, c'est de point de vue commercial. Hein, l'entraînement, ça y est, il est fait. Maintenant, c'est l'inférence. Maintenant, c'est tous les milliards, c'est pour développer de l'activité commerciale. Merci, messieurs, d'être venus parler de tout ça. Vincent Champin, président de l'Observatoire du long terme, patron digital chez Framatome, membre du COMEX. Stéphane Roder, président des AI Builders. Et Emmanuel Villon, Head of AI, vice-président engineering chez Generix. Merci de nous avoir apporté votre éclairage, messieurs. On a un peu bridé Stéphane sur cette partie parce qu'il allait nous refaire tout le panorama, mais ce sera pour une prochaine fois. On va faire tout le panorama de l'IA en France. Merci à tous les trois. Notre émission se termine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.